Les 21 jours d'un neurasthénique, chapitre 9. Clara Fistule est venue me voir ce matin. Entre autres histoires, il me raconte que le colonel baron de Pressalé passe ici toutes ses journées et toutes ses nuits, à la table de Baccarat. L'administration du casino tolère que le vaillant colonel se livre au petit jeu de la poussette. À chaque coup, elle lui accorde un louis qu'elle rembourse ensuite au banquier. « Qu'est-ce que tu veux ?» m'explique Clara Fistule. « Le respect de l'armée, d'abord. Et puis, ça n'est pas une affaire. Cela rentre dans les frais généraux. » Hier, comme son tableau gagnait, l'intrépide colonel poussa vivement sur le tapis un billet de 100 francs. Et lorsque son tour vint d'être payé, « Tout va au billet » déclara-t-il gaiement. Le croupier hésita, ne sachant que faire. « Mais, colonel, » balbutia-t-il. « Eh bien quoi ? Vous ne savez donc pas ce que c'est qu'un billet de 100 francs, nom de Dieu ?» Alors le directeur des jeux, qui se trouvait précisément derrière l'héroïque soldat, se penchant vers lui, lui tapa discrètement sur l'épaule et lui dit tout bas « Attention, colonel, vous dépassez. » « Vous croyez ?» fit le colonel. « Ah, bigre !» Et s'adressant au croupier « Un louis, seulement au billet, clampin !» Un vrai type de soldat, comme on voit. Quelquefois, au plus fort de l'affaire Dreyfus, le colonel venait me rendre visite le matin. Il entrait chez moi, toussant, crachant, sacrant, et telles étaient nos conversations. « Eh bien, colonel ?»« Eh bien, voilà, je me remets un peu, comme vous voyez, mais j'ai passé par de rudes moments. Ah, nom de Dieu !» Votre patriotisme. Il ne s'agit pas de mon patriotisme, il s'agit de mon grade. C'est la même chose. Parfaitement, c'est la même chose. Eh bien, j'ai cru pendant 15 jours qu'ils allaient me l'enlever, mon grade, ces types-là. Parole d'honneur. Enfin, aujourd'hui, ça va mieux, vous êtes plus tranquille. Plus tranquille. Enfin, on respire un peu, voilà tout. Oui, mais faut voir, nom de Dieu. » Ici, le colonel devenait songeur, et sous les broussailles remuées de ses sourcils, son regard semblait pénétrer l'avenir. Je lui demandai brusquement « Est-ce que vous allez recommencer, dans vos ordres du jour, à traiter les Pékins de sales cochons ?» et parlez encore de passer votre vaillante épée à travers le ventre des cosmopolites ? Fichtre, vous en avez de bonnes, vous ! Je vais d'abord laisser pisser le mouton. S'il pisse bien, c'est-à-dire si le gouvernement flanche, ah, je vous réponds que je leur enverrai par la gueule des ordres un peu carabinés à ces cosmopolites. Et s'il pisse mal, colonel ? Qu'entendez-vous par là ? J'entends si le gouvernement accentue sa fermeté et qu'il prenne de sérieuses mesures défensives contre les excitations prétoriennes. Alors, c'est différent, motus, mon garçon. Ou bien je leur parlerai de mon respect pour cette garce de loi, de mon obéissance à cette vache de république. Suis-je soldat, oui ou non ? Donc, la main dans le rang. Et par le flanc gauche. » Il ajoutait mélancolique « Ah, tout n'est pas rose dans le métier militaire. Il faut avaler son sabre, nom de Dieu, plus souvent qu'on ne voudrait. Mais quoi, on ne peut pas faire autrement. Le patriotisme. Le grade de colonel. C'est la même chose. C'est juste. le brave colonel allait et venait dans la pièce en mâchonnant un cigare dont il ne tirait que de vagues bouffées de fumée. Et il répétait entre chaque bouffée « La France est foutue, nom de Dieu ! La France est dans les griffes des cosmopolites !»« Vous avez toujours à la bouche ce mot de cosmopolite. Serait-il indiscret de vous demander ce que vous entendez exactement par là ?»«
Les cosmopolites ?»
« Je vous en prie, colonel. »«
Est-ce que je sais, moi, de sales bêtes, de sacrés sales cochons, de traîtres et de sans-patrie ?»«
Sans doute, mais encore. »«
Des vendus, des francs-maçons, des mouches à viande, des Pékins, quoi. »«
Précisez, colonel. »«
De la fripouille, nom de Dieu !»
Et le colonel rallumait son cigare, qui s'était complètement éteint sous l'averse furieuse de ses explications philologiques. Puis
« Et qu'est-ce qu'on raconte? Que Galifet va supprimer l'uniforme dans l'armée? Connaissez ça, vous ?»«
Ma foi, non.
On dit qu'il va commencer, d'abord par le pantalon, qui serait ad libitum pour la revue du 14 juillet. » Pantalon blanc, pantalon bleu, pantalon à carreaux, pantalon de velours à côtes, culotte de bicyclette. Et pour les chefs, la haute forme serait obligatoire. Plus de plumes blanches, plus de panache. Elle est bonne. Autant supprimer l'armée tout de suite. Car qu'est-ce que l'armée? Le panache, nom de Dieu! Et comment distinguerait-on désormais un civil d'un militaire?
« Il y a bien d'autres choses, colonel, par où les civils se distinguent des militaires. »«
Et qu'est-ce qu'on raconte encore dans les journaux? Que Dreyfus est rentré en France ?»«
Certainement, colonel. »«
Eh bien, elle est raide, celle-là. Elle est forte. Ah, elle est forte. »«
Mais puisqu'il est innocent. »«
Innocent? Un juif, un sale youpin, vous en avez de bonnes. Et quand cela serait ?» Qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça nous fout? Innocent. Et puis après, ça n'est pas une raison.
Voyons, colonel.
Il n'y a pas de voyons. Dreyfus a-t-il été condamné?
Oui. Par des juges militaires?
Oui.
Est-il juif?
Oui.
Eh bien qu'il nous fiche la paix.
Ah! Si au lieu d'un gouvernement de cosmopolites, nous avions un gouvernement de vrais patriotes, ce qu'on le renverrait dans son île, ce bougre-là. Une deux, arche, innocent. D'abord, un lascar qui se permet d'être innocent, sans l'ordre formel de ses chefs. C'est une crapule, entendez-vous? Un sale clampin, un mauvais soldat. Et quelle tête fait-il, ce misérable traître?
On a dit d'abord qu'il était très changé et très abattu.
Comédie! Est-ce qu'un innocent est jamais abattu? Est-ce que je suis abattu, moi? Allons donc, quand on est sûr de son innocence, on la crie, on la hurle, le nom de Dieu. On n'a pas peur que diable. On porte la tête haute, en soldat.
C'est précisément ce qui arrive pour Dreyfus, colonel, car le premier renseignement n'était pas exact. La réalité est que Dreyfus se montre très ferme et prêt à la lutte.
Un crâneur, alors? Un rouspéteur? Parbleu, c'est bien ce que je disais. Quand on est innocent, on ne fait pas l'insolent ou le tranche-montagne. On attend, triste, tête basse, la main dans le rang, la bouche close, en soldat. Et puis, ça n'est pas tout ça. Innocent ou coupable, il est oisé. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Où la France est archi foutue. Ainsi, moi, tenez, voici ce qui m'est arrivé. Des amis à moi, des propriétaires de chevaux de course, avaient l'autre jour engagé un match. Un match considérable, nom de Dieu. Ils m'avaient choisi pour juge, à cause de mon intégrité bien connue. Nous allons à Maison Lafitte, les chevaux courent. Que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Ai-je eu la berlue? C'est possible. Toujours est-il que je donnais la première place au cheval arrivé le dernier. Mes amis réclamèrent, tempêtèrent, firent le diable.
Eh bien, colonel?
Eh bien, mon garçon, j'ai maintenu mordicus mon jugement, et je les ai envoyés promener en leur disant « Je me suis trompé, c'est vrai. Je me suis fourré le doigt dans l'œil, je le reconnais. Mais foutez-moi la paix ! Si j'étais un civil, un sale Pékin de cosmopolite, j'attribuerais le prix au cheval qui vraiment l'a gagné, ou bien j'annulerais l'épreuve. Mais je suis un soldat, et je juge en soldat. Discipline et infaillibilité. Je maintiens l'épreuve. Rompez !» Et ils ont rompu. Pourtant, colonel, la justice... Le brave colonel haussait les épaules, puis, croisant ses bras sur sa poitrine étoilée de croix et capitonnée d'honneur, il disait « La justice, regardez-moi un peu. Ai-je l'air d'un sale Pékin, moi? Nom de Dieu, suis-je soldat ou non ?»« Ah, colonel, répliquai-je, je crains bien que vous le soyez plus que votre grade. »« C'est la même chose, criait le vaillant guerrier, qui se remettait à marcher dans la pièce, en giflant les meubles, en distribuant des bourrades aux chaises, et en hurlant à pleine gueule « Mort aux Juifs ! Mort aux Juifs !» Ce soir, le colonel baron de Pressalé a présidé le banquet offert par les coloniaux et les patriotes en traitement à X, au général Archinard, notre hôte illustre, ainsi que dit la Gazette des étrangers. C'est au restaurant du casino que cet événement a eu lieu. Le banquet a été superbe et que de toasts enflammés. Comme toujours, le colonel a été éloquent et bref. « Vive la France, nom de Dieu » s'est-il écrié en levant son verre. « Si nous n'avons pas, du coup, conquis l'Égypte, chassé les Anglais de Fashoda, les Allemands d'Alsace-Lorraine et les étrangers de partout, ça n'a pas été la faute des banqueteurs. » Il y a quelques années de cela, le général Archinard, désireux d'ajouter à sa gloire de soldat un peu de gloire littéraire, fit paraître dans la Gazette européenne une série d'articles où il exposait ses plans de colonisation. Les plans étaient simples, mais grandioses. J'y relevais les déclarations suivantes. Plus on frappera coupable ou innocent, plus on se fera aimer. Et ailleurs, le sabre et la matraque valent mieux que tous les traités du monde. Et encore, en tuant sans pitié un grand nombre. Ayant trouvé ces idées non point nouvelles mais curieuses en soi, je me rendis chez ce brave soldat dans le but patriotique de l'interviewer. Ce n'est point chose facile de pénétrer jusqu'à cet illustre conquérant, et je dus parlementer longtemps. Par bonheur, je m'étais, en haut lieu, prémuni de lettres et de références devant lesquelles il n'y avait, même pour un héros de sa trempe, qu'à s'incliner. Le général n'opposa donc pour la forme qu'une résistance d'ailleurs assez molle, et il finit par me recevoir. Dieu sait si le cœur me battait fort lorsque je fus introduit près de lui. Je dois dire qu'il m'accueillit avec cette brusquerie charmante que, chez messieurs les militaires, on peut appeler de la cordialité. Cordialité joviale et ronde, et plaisante à l'esprit d'un Français qui a lu M. Georges d'Esparbès. Vêtu d'un burnous rouge, il était assis sur une peau de tigre et fumait, à la mode arabe, un énorme narguilé. Sur son invitation brève comme un commandement, que j'eusse une deux, à m'asseoir sur une peau de simple mouton en face de lui, je ne pus me défendre, en obtempérant à ses ordres, de ressentir une vive émotion. Et, à part moi, je tirais de la différence hiérarchique de ses fourrures des philosophies grandioses, non moins que de peu consolantes analogies. « Pékin, militaire, quoi? Qu'est-ce que vous êtes ?» Telles furent les interrogations rapides et successives dont m'assaillit le général. « Territorial, répondis-je conciliant. « Un peu, peut-être un poids,
sortit de ses lèvres dans un gargouillement de mépris. Et j'aurais, certes, du seul fait de mon aveu centre-gauche et amphibiologique, passé un mauvais quart d'heure, comme on dit, si une espèce de petit négrillon, bizarrement costumé, n'était entré, à ce moment, portant un plateau sur lequel il y avait de nombreuses bouteilles et des verres. C'était l'heure tranquille où les héros vont boire. Je me réjouis d'arriver à cette heure providentielle de l'absinthe. « Gomme ? Curaçao ? Quoi ?» me demanda abréviativement le glorieux soldat. « Pur, général !» Et je vis, au sourire approbateur par quoi fut accueillie cette martiale déclaration, que je venais de me conquérir la bienveillance et, peut-être, l'estime du grand civilisateur soudanais. Tandis que le général préparait, selon des rites méticuleux, les boissons apéritives, j'examinais la pièce autour de moi. Elle était très sombre. Des étoffes orientales ornaient les fenêtres et les portes d'une décoration un peu surannée, un peu trop rue du Caire, à mon goût du moins. Au mur, des armes en panoplie, des armes terribles et compliquées, reluisaient. Sur la cheminée, entre deux vases où s'érigeaient, en guise de fleurs, des chevelures scalpées, la tête d'un jaguar, empaillé, mordait de ses crocs féroces une boule en verre, au centre de laquelle le cadran d'une toute petite montre faisait les heures captives, transparentes et grossissantes. Mais ce qui attirait le plus mon attention, c'étaient les murs eux-mêmes. Sur toute leur surface, ils étaient tendus de cuir, d'un cuir particulier, de grains très fins, de matière très lisse, et dont le noir, verdâtre ici et là mort doré, m'impressionna, je ne sais pourquoi, et me causa un inexprimable malaise. De ce cuir, une étrange odeur s'exhalait, violente et fade à la fois, et que je ne parvenais pas à définir. Une odeur sui generis, comme disent les chimistes. « Ah ah, vous regardez mon cuir !» fit le général Archinard, dont la physionomie s'épanouit soudain, tandis que ses narines dilatées humaient avec une visible jouissance le double parfum qui s'évaporait de ce cuir et de cette absinthe, sans se mélanger. « Oui, général. Vous épate ce cuir, hein ?»« Il est vrai, général. Eh bien, c'est de la peau de nègre, mon garçon. » « De la peau de nègre, parfaitement. Riche idée, hein ?» Je sentis que je pâlissais. Mon estomac, soulevé par un brusque dégoût, se révolta presque jusqu'à la nausée. Mais je dissimulais de mon mieux cette faiblesse passagère. D'ailleurs, une gorgée d'absinthe rétablit vite l'équilibre de mes organes. « Riche idée, en effet, » approuvai-je. Le général Archinard professa. Employés de cette façon, les nègres ne seront plus de la matière inerte, et nos colonies serviront du moins à quelque chose. Je me tue à le dire. Regardez ça, jeune homme, tâtez-moi ça. Ça fait de la maroquinerie premier choix, hein? Ils peuvent se fouiller maintenant à Cordoue avec leur cuir. Nous quittâmes nos fourrures et nous fîmes le tour de la pièce en examinant minutieusement les bandes de cuir exactement jointes dont les murs étaient recouverts. À chaque minute, le général répétait « Riche idée, hein ? Tâtez-moi ça ! Joli, solide, inusable, imperméable, une vraie mine pour le budget, quoi ! » Et moi, affectant de vouloir m'instruire sur les avantages de cette corroirie nouvelle, je lui posai des questions techniques. « Combien faut-il de peau de nègre, général, pour tendre une pièce comme celle-là »«
109, à peu près, l'une dans l'autre. La population d'un petit hameau. Mais tout n'est pas utilisé, pensez bien. Il y a dans ces peaux principalement dans les peaux de femmes, des parties plus fines, plus souples, avec quoi l'on peut fabriquer de la maroquinerie d'art, des bibelots de luxe, des porte-monnaies par exemple, des valises et des nécessaires de voyage, et même des gants. Des gants pour deuil, ha ha! Je crus devoir rire, moi aussi, bien que ma gorge serrée protestât contre ce genre de gaieté anthropophagique et coloniale. Après une inspection détaillée, nous reprîmes position sur nos fourrures respectives, et le général, sollicité par moi à des déclarations plus précises, parla ainsi. Quoique je n'aime guère les journaux, d'abord, et ensuite les journalistes, je ne suis pas fâché que vous soyez venu, parce que vous allez donner à mon système de colonisation un retentissement considérable. Voici en deux mots la chose. Moi, vous savez, je ne fais pas de phrases, ni de circonlocutions. Je vais droit au but. Attention, je ne connais qu'un moyen de civiliser les gens, c'est de les tuer. Quel que soit le régime auquel on soumette les peuples conquis, protection, annexion, etc., etc., on en a toujours des ennuis, ces bougres-là ne voulant jamais rester tranquilles. En les massacrant en bloc, je supprime les difficultés ultérieures. Est-ce clair? Seulement, voilà, tant de cadavres, c'est encombrant et malsain, ça peut donner des épidémies. Eh bien, moi, je les tanne, j'en fais du cuir. Et vous voyez par vous-même quel cuir on obtient avec les nègres. C'est superbe. Je me résume. D'un côté, suppression des révoltes, de l'autre côté, création d'un commerce épatant. Tel est mon système. Tout bénéfice. Qu'en dites-vous, hein? En principe, objectai-je, je suis d'accord avec vous pour la peau. Mais la viande, général, que faites-vous de la viande? Est-ce que vous la mangez? Le général réfléchit pendant quelques minutes et il répliqua. La viande, malheureusement, le nègre n'est pas comestible. Il y en a même qui sont vénéneux. Seulement, traité de certaines façons, on pourrait, je crois, fabriquer avec cette viande des conserves excellentes. Pour la troupe. C'est à voir. Je vais soumettre au gouvernement une proposition dans ce genre. Mais il est bien sentimental, le gouvernement. Et ici, le général se fit plus confiant. Ce qui nous perd, comprenez bien, jeune homme, c'est le sentiment. Nous sommes un peuple de poules mouillées et d'agneaux bêlants. Nous ne savons plus prendre des résolutions énergiques. Pour les nègres, mon Dieu, passe encore. Ça ne fait pas trop crier qu'on les massacre. Parce que, dans l'esprit du public, les nègres ne sont pas des hommes et sont presque des bêtes. Mais si nous avions le malheur d'égratigner seulement un blanc, oh là là, nous en aurions de sales histoires. Je vous le demande, là, en conscience. Les prisonniers, les forçats, par exemple, qu'est-ce que nous en fichons? Ils nous coûtent les yeux de la tête. Ils nous encombrent. Et ils nous apportent quoi? Quoi? Voulez-vous me le dire? Vous croyez que les bagnes, les maisons centrales, tous les établissements pénitentiaires ne feraient pas de merveilleuses et confortables casernes? Et quel cuir avec la peau de leurs pensionnaires! Du cuir de criminel! Mais tous les anthropologues vous diront qu'il n'y a pas au-dessus. Ah, witch, allez donc toucher à un blanc. Général, interrompis-je, j'ai une idée. Elle est spécieuse, mais géniale.
Allez-y.
On pourrait peut-être teindre en nègre les blancs afin de ménager le sentimentalisme national.
Oui, et puis?
Et puis, on les tuerait, et puis on les tannerait. Le général devint grave et soucieux.
« Non, fit-il, pas de supercherie, ce cuir ne serait pas loyal. Je suis soldat, moi, loyal soldat. Maintenant, rompez, j'ai à travailler. » Je vidai mon verre, au fond duquel restaient encore quelques gouttes d'absinthe, et je partis. Cela me fait tout de même plaisir et me remplit d'orgueil de revoir de temps en temps de pareils héros en qui s'incarne l'âme de la patrie.